À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 19 juillet, les vieilles charrues reviennent à Carhaix pour une 34e édition avec une programmation très attendue mais aussi de nombreuses nouveautés. Le plus grand festival de France continue de se renouveler tout en faisant face à de nouveaux défis, du changement climatique à la maîtrise des coûts. Pour ce premier jour de festival, je suis avec son directeur Jérôme Tréhorel. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Alors après 34 éditions, comment fait-on pour surprendre encore un public qui revient parfois depuis 20 ou 30 ans ?
Oh ben ça, c'est la petite partie plaisir, de ne pas reproposer chaque année toujours la même chose. Et avec voilà, l'équipe, nous aussi, on a envie de renouveler les choses, de travailler de nouveaux projets, de nouveaux aménagements, de nouvelles animations, de nouveaux concepts. C'est ce qui est excitant dans notre travail. On a cette chance-là de pouvoir apporter des nouveautés, des changements. Et puis c'est un jeu avec des festivaliers, voilà, d'imaginer une thématique avec voilà, des décorations, de nouvelles propositions, de se mettre à la place des festivaliers, puis après d'essayer de se projeter pour voir voilà, comment ils vont réagir à ces nouveautés, à ces surprises. Et c'est toujours un bonheur voilà, quand on ouvre les portes du festival, de voir les festivaliers découvrir les petites surprises qu'on leur a réservées.
C'est le public aussi qui vous inspire ?
Bah, c'est le public, c'est oui, parce que quand on voit le public et les artistes aussi, est-ce qu'on a, on dit souvent que le festival des vieilles charrues, c'est vraiment un festival à part, hein, pas comme les autres. Et on essaye de cultiver voilà, cette différence par rapport aux autres festivals. Et puis, c'est de se dire aussi, voilà, des gens nous font l'honneur de venir à un événement qu'on a pensé, imaginé pour eux. Et qu'au-delà des concerts, on a envie que l'expérience elle soit pleine et entière, hein, ce qu'on fait depuis plusieurs années. C'est pour ça qu'on a redéveloppé des espaces, qu'on repense des espaces, hein, comme le parc du château, l'esplanade. Et puis, voilà, des surprises autour du bar 8, Carpen Guané autour des scènes, et puis un univers qui permet de se plonger vraiment dans une parenthèse enchantée dès qu'on passe les portes du festival. Donc les derniers, on était sur les plages paradisiaques, et cette année, on va arriver dans le Grand Nord, dans les montagnes, qui va un peu rafraîchir les esprits en ces périodes de porte chaleur.
Le cercle polaire. Alors, pourquoi avoir fait ce choix ? Parce qu'on va faire de la luge en plein mois de juillet en Bretagne ?
Exactement, on va pouvoir faire de la luge sur le festival en plein mois de juillet, ce sera gratuit. C'est pour s'amuser, encore une fois, ça nous fait rire, ça nous fait marrer de là, passer des plages paradisiaques là, au Grand Nord, aux aurores boréales, à la montagne. Puis c'est des thèmes qui sont voilà, que les gens peuvent s'approprier aussi facilement, que nous on peut décliner facilement en décoration, en merchandising, en habillage du site, des structures, donc voilà. C'est vraiment voilà, s'amuser. Moi, je dis souvent, on organise le festival comme si on organisait un barbecue, on invitait des amis ou la famille. Ben là, c'est pareil, sauf que c'est un grand barbecue et il y a beaucoup d'amis et beaucoup de famille, quoi.
Là, on est sur une idée quand même assez décalée. Comment est née cette piste de luge synthétique ?
Suite au thème, voilà, on choisit le thème et puis après, on voit ce qui peut être adaptable, déclinable sur le site. Les thèmes nous faisaient rire et puis après qu'est-ce qu'il y a à la montagne, qu'est-ce qu'on peut faire à la montagne, il y a entre autres la luge, et donc c'est après on part à la recherche de prestataires, de fournisseurs qui sont en capacité de nous proposer des choses qui sont aussi adaptées en mode festival avec un public qui est en nombre conséquent quand même.
Alors le parc devient la guinguette, qu'avez-vous envie d'apporter de nouveau à cet espace ?
Du nouveau justement, un renouveau, un nouvel univers qui plaît beaucoup aux gens. La guinguette, on en voit, ça se développe. Nous, on avait un peu initié le truc l'année dernière. On a vraiment voulu repenser complètement le parc du château, qui est un lieu de pause hein, pour les festivaliers, avec des propositions artistiques différentes qu'on peut pas proposer sur les autres thèmes du festival. Donc voilà, c'est créer un autre univers. Une autre facette des vieilles charrues avec, au-delà des propositions artistiques, un univers, une scénographie vraiment très forte, hein, vous découvrirez sur les festivals, et puis des propositions alimentaires, boissons qui sont aussi différentes de celles qu'on peut trouver sur le site. Donc c'est vraiment un lieu de vie, un lieu de pause pour les festivaliers.
Justement, vous avez également fait appel à plusieurs chefs bretons et même à Thierry Marps. Est-ce que la gastronomie est devenue un élément fort de l'expérience Vieille Charrue ?
La gastronomie, ça a toujours été un point particulier au Vieille Charrue parce qu'on a cette particularité de gérer nous-mêmes toute la restauration sur le site du festival. À la différence d'autres événements qui, en général, font appel à des food trucks ou des prestataires extérieurs, nous, c'est vraiment des équipes dédiées qui gèrent l'ensemble des bars et des restaurants. Et quand on dit on gère l'ensemble des bars et restaurants, c'est-à-dire qu'on va discuter, travailler avec des fournisseurs en local pour identifier des produits, des recettes qu'on va pouvoir proposer sur les festivals. Donc ça nous permet vraiment de choisir exactement ce que l'on veut, de travailler avec des chefs pour faire des combinaisons de plats, de recettes, adapté à un mode festival, une ville éphémère qui accueille, là ici, une particularité, 70 000 personnes. Donc, 70 000 personnes chaque jour, c'est pas une mince affaire. Donc voilà, il y a tous ces paramètres à prendre en compte, mais avec cette particularité de pouvoir travailler avec des fournisseurs, des producteurs bretons, français, hein, tout 100% c'est et ou breton et ou français. On va pas chercher ce dont on a besoin ailleurs. Et voilà, ça nous permet vraiment de choisir ce qu'on met dans l'assiette, mettre des produits de qualité et de choisir aussi des prix, hein, des prix abordables entre 3 et 15 euros pour les plats. Et c'est de nous un des festivals, comme même le festival le moins cher au regard de cette offre restauration de qualité. Donc voilà, là aussi, ça va amplifier l'expérience des festivaliers d'avoir la possibilité. Alors, soit prendre des sandwichs ou les burgers qu'on fabrique nous-mêmes et qui viennent avec des produits locaux, hein, des produits frais,
ouais.
Ou d'avoir des plats un peu plus élaborés avec des chefs bretons et des chefs étoilés.
Vous mettez cette année les bénévoles aussi à l'honneur avec une exposition photo. Pourquoi était-ce important ?
C'était une manière différente et complémentaire de les mettre à l'honneur. On l'a fait de cette forme-là parce qu'il y a un photographe carésien qui depuis quelques années couvre le festival d'une manière un peu atypique. Hein. Il ne fait que des portraits de bénévoles en action sur le festival. Et on avait envie de mettre à l'honneur et son travail et des bénévoles. Et puis on le fait dans le jardin du parc, parce que c'est là-bas qu'il y a le QG avec le jardin des bénévoles. Et puis c'est un espace voilà, où on a envie que les gens viennent aussi s'approprier ce lieu et prennent un temps pour découvrir les visages des personnes qui passent un bon festival.
Cette édition intervient dans un contexte économique compliqué pour les festivals. Comment se portent aujourd'hui les Vieilles Charrues ? On sait qu'il y a eu des années assez compliquées.
Oui, c'est un contexte compliqué à plusieurs endroits, hein, depuis 2020. Hein, de la pandémie. L'après-pandémie a été très compliquée parce qu'on a tous subi des inflations très importantes, alors des fois conjoncturelles, mais des fois aussi opportunistes. Le coût de production du festival art artistique a augmenté de 30%. Alors quand on est un festival qui est 100% associatif, indépendant, et qui ne touche pas de subventions, et qui veut surtout avoir un prix d'entrée le moins cher possible, hein, je rappelle qu'on est à 52 et 54 euros la journée, hein, c'est moins cher qu'une place de concert d'un artiste en aréna ou en demi-mythe. Et malheureusement, on voit aussi des dérives sur le prix de concert avec ce qu'on essaye de nous faire croire d'une nouvelle norme de billets à 150, 200, voire 300 euros. Ce n'est pas normal. Il ne faut pas l'accepter. Nous, on se bat pour que la culture reste accessible au plus grand nombre en territoire, qui est la diversité culturelle, mais qui est aussi un accès à la culture par le prix de billets. Donc nous, on se bat en ce sens-là. Donc c'est vrai qu'on a des coûts de production qui augmentent et des cachets qui augmentent. L'équation est un peu plus compliquée. On y arrive grâce au public qui répond présent. On est sur l'édition qui s'annonce complète. Il nous reste le tout dernier billet pour la journée du vendredi avec Mid-Thèse, Dissus, Jean-Louis Hubert, Moziman ou Vaille et Vladimir Cauchemar. On est tout dernier billet, donc voilà, c'est le plus beau cadeau que peut nous offrir les festivaliers. Mais voilà, faut se battre dans un contexte où ben, c'est pas simple. On a vu aussi les impacts des conflits dans le monde. Et là, cette année, c'est les carburants qui ont explosé, qui voilà, vont peser nous sur aussi le budget, malheureusement. On espère un retour à la norme, j'ai envie de dire, à la normale. Et surtout, voilà, que aussi le public prenne conscience que s'il n'y a pas une mobilisation des festivaliers, des spectateurs, sur des événements comme les Vieilles Charrues, hein, c'est-à-dire des festivals en territoire, associatifs avec des billets pas chers, ces événements-là sont compromis parce que les rouleaux compresseurs et les grandes boîtes françaises ou américaines avec des prix d'entrée, comme je disais tout à l'heure, exorbitants, font qu'une fois que vous avez acheté un billet à 150 ou 300 euros, vous n'achetez plus rien dans l'année en matière de concert. Et vous pouvez dire que potentiellement, il peut y avoir un gros phénomène de concentration et que les billets qui coûtent 150 ou 300 euros aujourd'hui, demain, coûteront 1000 euros. Donc, c'est un acte militant de venir sur des festivals associatifs comme les Vieilles Charrues. Et voilà, c'est au public de choisir l'avenir qu'il veut pour la culture en France.
On va parler maintenant du changement climatique. Les annulations de Solidaise ou de Garo Rock ont rappelé que les festivals sont désormais confrontés aux épisodes climatiques extrêmes. Est-ce une nouvelle responsabilité pour les organisateurs ?
La nouvelle, pas tout à fait, parce qu'on a déjà eu affaire une fois avant le Covid et puis depuis, en 2022, en 2024 et un peu en 2025. Faire face à des fortes chaleurs, nous, il y a deux phases en fait. Il y a la phase de montage, ce qu'on vit actuellement, avec des deuxième vagues de fortes chaleurs, où il faut réadapter les choses pour que les équipes puissent travailler en toute sécurité et qu'on puisse ouvrir les portes le jour J à leur H. Et puis, il y a la phase d'exploitation du festival où là, on va accueillir les festivaliers. Et là encore, il faut adapter aux besoins les choses pour que tout le monde puisse passer sa journée ou ses journées de concert, de festival en toute sécurité. Donc, on adapte nos dispositifs. On a plusieurs niveaux de graduation en fonction des prévisions météo, des conditions météo, avec des choses qui peuvent être adaptables le jour même. Mais l'idée, c'est d'avoir cette palette assez large prête pour surtout anticiper et se préparer à affronter, comme c'est le cas cette semaine pour nos équipes. On a réadapté complètement, comme on l'a fait il y a 15 jours, les heures de travail, les habitudes, les gestes un peu réflexes avec des pauses hydratation, des pauses fraîcheur, réadapter les menus des restaurants, etc., pour que tout le monde puisse travailler en toute sécurité et qu'on ne prenne pas non plus de retard pour ouvrir le festival comme prévu.
Ouais, on sait que, par exemple, il faut boire de l'eau pour les festivaliers, notamment. Est-ce que, justement, il y a un système de prévu s'il faisait trop, trop chaud ? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup quand même de personnes qui boivent de la bière.
Oui, alors vous savez, quand il fait très chaud, on a pu le mesurer il y a 15 jours ou depuis hier, on boit naturellement, on boit moins d'alcool.
Ouais.
Et avec tous les messages de prévention, et on en rediffuse également, l'alcool déshydrate. Et justement, l'effet inverse, un accélérateur contre la déshydratation. Puis, de toute façon, on se sent pas bien. Donc, on l'avait observé sur des années, il fait très chaud. Les consommations d'alcool elles descendent en flèche et c'est tant mieux. Maintenant, au Vieilles Charrues, on a plusieurs points d'eau qui existent depuis de nombreuses années sur le festival. On a aussi l'eau, donc l'eau est gratuite, je le précise, ça paraît tout bête, mais il y a de plus en plus d'événements où l'eau est payante.
Ouais.
L'eau est gratuite au Vieilles Charrues sur les points d'eau, mais elle est gratuite aussi dans les bars, et que selon les niveaux de chaleur qu'on pourrait avoir à affronter, une des consignes, pour un exemple que je peux vous donner, une des consignes pour les bénévoles dans les bars, qui avant de servir la commande des festivaliers, c'est de leur proposer systématiquement un verre d'eau.
D'accord.
Quelques petits exemples, mais voilà, et on a, encore une fois, on prend le sujet à bras le corps pour faire en sorte que tout se passe bien et pour les équipes, et pour les bénévoles, et pour les festivaliers.
Les festivaliers peuvent venir avec leurs gourdes ?
Alors, depuis l'année dernière, on a effectivement toléré des gourdes vides de moins de 75 centilitres. C'était pas le cas avant pour deux raisons. Un, c'est un projectile potentiel.
Bien sûr.
Et deux, c'est que pour des raisons aussi de prévention des risques liés à l'alcool, on ne souhaitait pas qu'il n'y ait pas d'alcool fort en vente sur le site du festival. On ne souhaitait pas que des gens rentrent avec de l'alcool fort sur le site pour avoir après à les prendre en charge dans les postes de secours ou dans notre hôtel de campagne.
Ouais.
Donc là, cette année, ce sera à nouveau toléré du fait des conditions de météo qui peuvent s'annoncer, on n'a pas encore les dernières prévisions, mais qui peuvent s'annoncer au-delà des températures de ce temps.
Quelles sont aujourd'hui vos grandes ambitions pour les prochaines éditions ?
Une des grandes ambitions qui démarre là, cette année, on l'a fait les tests en réel, c'est les travaux d'ampleur sur le site faire en sorte d'avoir un meilleur bilan carbone, de mieux consommer sur le site en matière d'énergie, je parle, l'eau, l'électricité et puis la fibre. On a démarré donc une première tranche de travaux cette année de réseaux enterrés avec l'eau, l'électricité et la fibre. C'est un test en réel et qui préfigure à des travaux qu'on va relancer avec la ville de Carhaix, le soutien de la région, le département et de l'État, de pouvoir armer, équiper l'ensemble du site de concert en réseau d'eau, électricité et fibre, en tout point, en tout lieu du festival. Donc c'est l'énorme toile d'araignée souterraine qui va être construite pour juin prochain.
D'accord.
Donc ça, c'est une vraie avancée qui va nous permettre d'avoir un festival plus propre écologiquement, plus responsable écologiquement, plus sobre énergétiquement, et qui va nous permettre de pouvoir monter le site potentiellement plus vite, et aussi pour moins cher, parce que c'est moins de prestats, moins de locations, et surtout moins de coûts de transport, moins de pénibilité pour les équipes. Donc c'est vraiment la première étape de ce qui préfigure être le site de demain, le site idéal pour pouvoir faire le festival de Bécharou, faire potentiellement d'autres événements, mais aussi d'autres événements ou d'autres formules, d'autres formats à terme, je l'espère, pour les Bécharou.
Alors justement, quand on parle d'autres formats, d'autres formules, est-ce qu'il y a un artiste que vous rêvez toujours de faire venir à Carhaix, hors Vieille Charrue finalement, puisque on sait, vous avez déjà évoqué Céline Dion qui a failli venir. Est-ce toujours un objectif, sachant qu'elle sera en mai à Paris ?
Oui, alors on va déjà la laisser reprendre gentiment, parce qu'elle a quand même vécu une situation médicale très compliquée. Donc
elle a pas mal de dates.
Déjà tout ce qu'elle va mieux et qu'elle va pouvoir retrouver ses sensations et sa voix là de ses plus prochains concerts à Paris, donc c'est déjà ça une très bonne nouvelle. Là c'est en mode résidence, donc une seule salle, un seul lieu, parce que j'imagine que voilà, il y a tout un tas de paramètres de sécurité qui sont à prendre en compte tenu de ce qu'elle a pu vivre. Bien évidemment, si tout se passe bien et si sa santé lui permet de continuer, notre invitation elle est toujours valable et on serait très honorés de l'accueillir un jour. Alors on ne fixe pas de date parce que encore une fois c'est beaucoup trop tôt, mais voilà, ses producteurs savent que il y a eu un rendez-vous manqué au Charrue dans un premier temps à cause de la pandémie, ensuite à cause des problèmes de santé. J'espère que ce type d'artiste, comme ça a été le cas avec des artistes volontaires comme Elton John, qu'on avait reçu, qui annule pas, qui reporte. Je pense que là, Céline Dion, elle est de cette trempe-là. Je pense qu'elle aura à cœur un jour d'honorer ce rendez-vous avec les Bretons. Mais pour l'instant, on ne se fixe pas de date, on ne se met pas de pression, on ne met de pression à personne. On a envie qu'elle remonte sur scène et que tout se passe bien pour pouvoir lui renvoyer l'invitation dans les années à venir.
Dernière question, Jérôme. Si vous deviez convaincre quelqu'un de venir vivre sa première édition des Vieilles Charrues cette année, quel serait votre meilleur argument ?
Mon meilleur argument, c'est de dire, faut le vivre pour le croire, pour comprendre ce qui se passe. Quand je dis que les Vieilles Charrues, c'est un festival pas comme les autres, quand on entend les artistes dire que le public des charrues, c'est le meilleur public de France, voire du monde. Voilà, c'est ça les vieilles charrues. C'est un festival pas comme les autres où on fait en sorte d'accueillir les festivaliers comme si on invitait des amis à un barbecue à la maison. C'est vraiment ça et on voit la différence parce que à tous les endroits, on imagine les parcours, les surprises pour que les gens vivent un moment extraordinaire. On a la chance en Bretagne d'avoir un événement comme ça avec des artistes qu'on ne devrait pas normalement voir en Bretagne. Mmh. Parce qu'il n'y a pas de grandes arénas, il n'y a pas de grands stades. Et j'ai envie de dire, tant mieux, parce qu'on vit ce moment-là tous ensemble dans un contexte de cette parenthèse enchantée, voilà, de respect, du vivre ensemble, de l'écoute, du partage, qui sont des valeurs hyper importantes pour nous. Et on le fait avec les gens du territoire, pour les gens du territoire, mais pour tous les Bretons. Et voilà, cet événement, il est essentiel, il fait du bien, surtout dans une période compliquée comme celle dans laquelle on est en train de vivre, quoi.
Merci beaucoup, Jérôme, et très bon festival.
Merci à vous, à bientôt.
Allez, nous, on se fait une petite pause. On s'écoute Katy Perry et Gims qui seront présents ce soir sur la scène des Vieilles Charrues. Et on se retrouve dans un instant avec Jeanne Russet, programmatrice du festival. Et on est de retour à l'occasion de cette première journée du Festival des Vieilles Charrues. On va parler maintenant programmation. Katy Perry, Nick Cave, Aya Nakamura, Roel San, Mika, Vanessa Paradis ou encore Jean-Louis Aubert. Cette année encore, les Vieilles Charrues affiche un mélange de stars internationales, d'artistes populaires, de découvertes, mais aussi de talents bretons. Derrière cette programmation se cachent deux personnes, Jean-Jacques Thou et Jeanne Russet, qui imaginent construire et aussi équilibre l'affiche du plus grand festival de France. Et c'est Jeanne qui est avec nous maintenant. Bonjour Jeanne.
Bonjour.
Alors lorsque vous commencez à construire une édition des Vieilles Charrues, par quoi vous débutez? Est-ce que c'est plutôt les envies artistiques ou les disponibilités des artistes?
Alors c'est vrai qu'on construit, on va dire qu'on commence à peu près début d'année pour l'édition suivante. Hein.
Ouais.
Vraiment là, on va plutôt s'orienter et essayer de construire les squelettes de la programmation avec nos têtes d'affiche internationales et françaises. Et puis ensuite, on va essayer de conserver l'ADN, un petit peu la recette magique de la programmation du festival, c'est-à-dire des têtes d'affiche, de la découverte dans toutes les esthétiques, pop, rock, électro, et puis rester au plus près de l'actualité musicale du moment.
Alors cette année, on retrouve quand même des univers très différents, Katy Perry, Nick Cave, Aya Nakamura. Il y a un fil rouge qui relie comme ça tous ces artistes?
On essaye vraiment de se déplacer au maximum pour aller voir les artistes sur scène et pour voir s'ils sont et ou elles sont charrues compatibles.
D'accord.
C'est vrai qu'on aime vraiment notre cœur de métier, c'est la musique, c'est le concert en live et on a envie que le public prenne plaisir et que les artistes aussi prennent plaisir. Donc c'est vraiment aussi la beauté, la performance, mais aussi la poésie, proposer un panel de concerts live le plus beau pour nos festivalières et nos festivaliers.
Alors Katy Perry est sans doute l'un des grands coups de cette édition. Qu'est-ce que sa venue représente pour le festival?
C'est vrai que c'est quand on a eu la confirmation, on était vraiment hyper excités. C'est la première fois qu'elle vient aux Vieilles Charrues. C'est une pop star qu'on avait essayé d'accrocher à notre affiche depuis quelques années. Elle est connue pour ses shows et ses scénos incroyables. Ça va être une explosion de couleurs et nous c'est tout à fait une artiste vieille charrue typiquement.
Ouais. Et Nick Cave est un artiste très différent, presque même on pourrait dire à l'opposé de Katy Perry. Est-ce que justement c'est ce grand écart qui fait aussi l'identité des vieilles charrues?
C'est complètement ça. C'est l'identité charrue d'aller dans toutes les esthétiques et toutes les propositions artistiques vraiment différentes. Là pour le coup on est sur du rock indé. Presque de la poésie avec ce chanteur hyper charismatique. Lui aussi, pour la première fois aux Vieilles Charrues, on est sur une présence magnétique sur scène, il y a une vraie communion avec le public. et qu'on va pouvoir apprécier pendant 2h30 de show le vendredi.
Alors Aya Nakamura, Aurel San incarne la musique populaire d'aujourd'hui. C'est indispensable pour un grand festival qui accompagne aussi l'évolution des goûts du public. Et on a aussi Gims. D'ailleurs, pour Gims, c'est une première. Ça faisait des années que son nom circulait. Là, c'était le bon moment pour vous ?
Oui, je crois que c'est vraiment ça. On a suivi évidemment toute sa carrière, depuis Section d'Assaut jusqu'à sa carrière solo. Et là, c'était vraiment... On s'est dit que c'était le bon moment pour le présenter aux Vieilles Charrues. Voilà, on le présente même plus. C'est de plus en plus, il est de plus en plus populaire. Il nous était vraiment hyper demandé. Voilà, on essaye chaque année aussi de faire des petites études auprès de notre public,
ouais,
pour savoir qui ils aimeraient voir sur l'année, qui elles aimeraient voir sur l'année suivante. Et je vous avoue que Gims est sorti en grand numéro 1. On s'est dit, allez, c'est le moment, on y va. Et première fois aux Vieilles Charrues, effectivement.
Les grandes stars attirent les festivaliers, mais une partie de votre travail consiste aussi à faire découvrir de nouveaux artistes. Quelle place vous accordez aux découvertes ?
C'est une place qui est importante pour nous. C'est vrai ce qu'on aime sur le festival, voilà, c'est que le festivalier ou la festivalière vienne pour Mika et puis finalement découvre Asfar Shamsi qui passe le même jour. Et c'est important pour nous aussi de faire découvrir des artistes. Et puis après, ce qu'on aime aussi par la suite, c'est des artistes, par exemple, comme Suzanne ou d'autres sur cette édition qui reviennent. Voilà, Aurel San, on l'a suivi depuis ses tout débuts. Il est venu 4 fois sur le festival, là c'est sa 5e fois. C'est ce qu'on aime aussi, voilà, le découvrir des petites pépites qui seront les têtes d'affiche de demain.
Il y a un ou deux noms comme ça de cette édition que vous conseillez particulièrement à ne pas manquer cette année ?
Il y en a beaucoup, c'est difficile. Mais j'ai envie de dire Piche. Piche qui va faire l'ouverture du festival de jeudi, surtout ne pas rater. Voilà, c'est une chanteuse rappeuse drag queen qui a été révélée entre autres par Drag Race France, puis qu'on a vu sur la cérémonie d'ouverture des JO. Voilà, elle casse les codes rap, pop, culture LGBTQIA+. Ça va être une très belle ouverture du festival. Et puis dans les petites pépites, j'ai envie de parler de Daniel, qui est un jeune rappeur franco-algérien. Voilà, donc un rap, il sera le dimanche, rap teinté de rail actuel, très très actuel, c'est un petit coup de cœur. Et puis évidemment, nos deux artistes bretons-bretonnes du label Charrues,
ouais,
qui sont No Pain No Pain et Ne Rangez Pas Les Jardins. On est dans deux esthétiques différentes. No Pain No Pain, c'est plutôt un rock progressif, instrumental. Coup de cœur évidemment, un peu à la Ezekiel ou Archive. Et puis Ne Rangez Pas Les Jardins, voilà, qui est folk rock poétique hyper singulier, avec une chanteuse super charismatique, ne pas louper non plus.
Comment on fait pour satisfaire à la fois un adolescent qui est venu voir Aya Nakamura et des amateurs de rock qui attendent Nick Cave et des festivaliers finalement fidèles aussi depuis 30 ans?
Oui, c'est vrai que c'est un petit peu la difficulté, le challenge, on va dire, chaque année. Malheureusement, voilà, on essaye, on y arrive plus ou moins. J'ai l'impression qu'en tout cas, cette année, les retours du public de tout âge sont vraiment super. On arrive à fédérer, en tout cas, toute la famille sur une journée de festival. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire avec des artistes femmes, hommes, internationales, français, de toutes les esthétiques pour que et puis on essaie comme ça de construire par jour des parcours de festivaliers-festivalières.
D'accord.
Par exemple, un amateur de rock va aller voir sur la journée du vendredi, par exemple, Nick Cave et puis Jenny Bess et puis Bonne Nuit et puis construire comme ça sa journée. Et on fait pareil pour toutes les esthétiques pour que, justement, ce festival qui est hyper familial le reste et que tout le monde y trouve plaisir.
Alors, quand on dit justement hyper familial, il n'y a pas d'artiste dit nouvelle génération, dit starade, qu'on va retrouver dans beaucoup de festivals. Est-ce que c'est un choix ? Est-ce que ce n'est pas compatible avec les Vieilles Charrues ?
Ah non, pas du tout. C'est vrai qu'on ne s'interdit rien avec Jean-Jacques, en tout cas en termes de programmation. C'est les opportunités qui se sont présentées cette année. On a aussi pas mal de concurrence avec d'autres festivals sur notre week-end, à l'étranger, vraiment, il n'y a pas de... On n'a pas d'artistes non compatibles.
D'accord. Et c'est... quels sont aujourd'hui finalement les plus grands défis d'une programmatrice de festival ? Est-ce que c'est donc les tournées internationales, les budgets, la concurrence entre les festivals ? On vient d'en parler.
Oui, j'en parlais. C'est vrai que la concurrence, c'est pas simple. Et puis les budgets. Il faut qu'on reste à un prix de billet raisonnable. C'est vraiment une volonté de l'association de rester le plus accessible possible pour le public. Donc voilà, donc il faut jongler avec ces cachets d'artistes qui ne font qu'augmenter. Voilà, alors on essaye, c'est pas facile, on se bat tous les ans pour que ça reste un budget raisonnable. Mais bon, on y arrive.
Il y a beaucoup d'artistes que vous aimeriez programmer, mais qui restent aujourd'hui clairement inaccessibles pour les vieilles charrues.
Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des artistes qui voilà, sont hors budget. Alors j'ai pas d'exemple en tête, hein, mais vraiment c'est des artistes qui vont plutôt partir sur des énormes tournées uniquement de stade. Où là, voilà, nous c'est vrai que passer une limite c'est compliqué niveau budget, niveau économie, mais voilà, on s'interdit rien et puis on garde espoir et puis on essaye de vendre aussi justement un petit peu notre différence aux vieilles charrues, c'est-à-dire voilà, un festival indépendant, 100% associatif, c'est ce qui peut faire la force aussi de notre événement.
On sait que vous avez réussi à faire venir, même si elle n'est pas venue, Céline Dion. Là, aujourd'hui, elle est en tournée en France, au mois d'octobre, mais aussi au mois de mai. Est-ce qu'il y aurait une possibilité qu'elle revienne aux charrues ?
Ben, on en rêve. C'est vrai qu'on est ravis de l'avoir de retour sur scène. C'est plutôt bon signe. Et puis on garde espoir pour la suite.
On va parler de tendance musicale. Est-ce que vous avez le sentiment que les goûts du public évoluent plus vite qu'avant ?
C'est une bonne question. Je ne suis pas sûre. J'ai l'impression en tout cas que la nouvelle génération, via les réseaux et via les plateformes de streaming, ça va beaucoup plus vite. En tout cas, ils s'imprègnent beaucoup plus de tout ce qui peut passer sur les réseaux ou sur TikTok ou sur mais c'est assez intéressant finalement. Après nous, il faut qu'on garde c'est vrai en tête que quand on construit notre programmation, c'est plutôt en septembre, octobre.
Ouais.
Et voilà, et le festival est en juillet. Donc après les choses vont très très vite. Nous, voilà, notre pari, ça va être de dire que bah tiens, c'est pas juste un effet de mode, on est sur une artiste qui a une carte à jouer et qui va durer. Dans le temps. C'est un peu nos challenges chaque année.
Comment vous imaginez la programmation des vieilles charrues dans 5 ou 10 ans ? Est-ce que l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux ou TikTok influencent aussi déjà votre manière de repérer les artistes émergents ?
Alors c'est vrai qu'on est très attentif aux réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou Instagram. Et puis pour nous, c'est une richesse, hein. Ça nous fait vraiment une veille artistique qui est hyper intéressante. Après, c'est vrai que je pense que ce n'est qu'un élément pour faire nos choix, tout comme voilà, effectivement, j'en parlais tout à l'heure d'aller les voir sur scène et de voir voilà comment c'est complètement différent d'enregistrer un morceau dans sa chambre avec tous la technique qu'on peut avoir aujourd'hui et voilà de se présenter sur scène à un public. Et puis on a aussi ben voilà ces éléments d'études auprès de notre public, voilà qui est à laquelle on attache beaucoup d'importance aussi. Donc c'est important, mais ça ne fait pas tout sur la construction d'une programmation.
Et dernière question, Jeanne, quel est votre plus beau souvenir de programmatrice aux vieilles charrues?
Je crois que c'est quand on a accueilli Rosalia. Elle était voilà à ce moment-là, au moment où on l'a confirmée. Bon, il y avait quelque chose qui se passait en tout cas, mais au moment où elle est arrivée sur le festival, c'est vrai que ben voilà, le public, en partie en tout cas, ne la connaissait pas encore.
Ouais.
Et je sais qu'à la sortie du concert, il y a tout un tas de personnes qui sont venues me voir, de tout âge d'ailleurs, qui m'ont dit « mais c'était quoi ce truc ? C'était génial !» Et c'est vrai que son show était vraiment unique. Hyper singulier avec voilà le jeu de vidéo et de vidéo en live de ces danseurs, danseuses et elle a fait une performance incroyable. Je crois que c'est un de mes super souvenirs du festival.
Merci beaucoup, Jeanne, et très bon festival.
Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.